RMC.
After Lyon.
Le podcast
Nicolas Jamain.
Bienvenue dans le podcast After Lyon et bonjour à toi, adorateur de John Mensah et Kleber Anderson. Avec cette semaine, coach Courbis, salut Roland.
Salut les amis.
Et Edouard G, salut Edouard.
Salut Nico, salut Roland, salut à tous.
Vivement salut que cette semaine se termine, cette saison se termine pour l'Olympique Lyonnais, battu 3-2 par une équipe qui n'avait gagné que 4 fois. Cette saison quasiment reléguée en Ligue 2, le FC Metz. On va faire l'évaluation dans un instant, messieurs. Cette question également, Peter Bosz est-il perdu ou est-ce la faute des joueurs? On va en débattre avec coach, avec toi, Edouard. Et puis, heureusement qu'il y a la victoire en Coupe Gambardella, heureusement qu'il y a les gamins à Lyon, 25 ans après, un trophée pour les jeunes. Est-ce que ce trophée annonce des lendemains ou des surlendemains heureux à l'OL? On va en parler également. Vous écoutez l'After Lyon, c'est parti.
Les bolides sont du côté de Lyon.
On va faire le top et le flop, bien sûr, l'évaluation de ce match entre Metz et Lyon. Je le rappelle, défaite des Lyonnais, 3-2. Quel est votre top, messieurs? Coach, on commence avec toi.
Bah, disons que c'est difficile de ne pas mettre Dembélé, puisqu'on en a parlé depuis plusieurs semaines, et il rajoute encore 2 buts au nombre de buts qu'il avait déjà. Il a été absent, je crois, 10 à 12 matchs, et malgré ce, bah, il met quand même, et c'est pas fini, il met quand même entre 15 et 20 buts.
Il est à 19 buts en Ligue 1, Edouard, cette saison. 34 matchs, 20 buts, 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Je rappelle qu'il n'a que 25 ans, hein, Edouard. Hein. Ouais. C'est encore surtout, un jeune attaquant.
80% des buts, c'est depuis le 1er janvier 2022. Oui. 15 donc buts. Absent, tu le disais, coach, depuis il a été absent, voilà, un petit peu de septembre, octobre, novembre, jusqu'à début décembre. Donc c'est le moment où tu as le plus de matchs, hein, 12 matchs de Ligue 1 manqués à ce moment-là. Donc. Franchement, je suis d'accord avec toi. Je le mets aussi en bolide, en taulier, en top, comme vous voulez. Et pour son implication aussi, parce que c'est le seul qui vient devant les micros. Ah. Alors, c'est facile parfois, après le 6-1 face à Bordeaux ou le 5-2 face à Montpellier. Mais c'est beaucoup moins facile après une défaite. Et donc, pour ça, pour son engagement sur le terrain, pour ses buts, voilà, il en faudrait 11 comme lui sur l'équipe, voire 14-15 pour que l'OL fasse quelque chose. Mais malheureusement, il n'y en a qu'un.
Est-ce qu'on a dans l'esprit de s'appuyer sur lui pour la saison suivante également? Il n'est pas en fin de contrat, Dembélé. Hein. Je crois qu'il a un contrat jusqu'en 2023, j'en suis même sûr.
Ouais, exactement. Ouais.
Parce qu'il a toujours été, il est encore parfois un petit peu moqué, coach. Hein. C'est un attaquant qui peut être maladroit, qui faut beaucoup d'occasions pour marquer. Mais enfin, les chiffres parlent, tu l'as dit, hein. 15 buts depuis janvier. Toi, tu penses qu'on peut en faire un numéro 9 taulier de l'OL, coach?
Ben, disons que bon, ça dépend aussi de la proposition que tu me ferais pour le remplacer, mais pour le moment, je rajouterais, tu as déjà Dembélé. Donc après, oui, on peut trouver mieux, mais bon...
Est-ce qu'il faut chercher mieux? C'est la question que je te pose.
Ben, il faut chercher. Si tu as la possibilité de trouver mieux, c'est sûr que ça serait con de s'en priver. Mais bon, déjà... D'avoir lu, c'est pas mal. Par contre, vous me parlez de 23, mais ça passe vite. Ça voudrait dire quoi? Qu'à la fin de la saison, là, il reste plus qu'un an.
Ben,
donc, il ne peut pas rester s'il ne prolonge pas.
Et il mieux, peut rester et aller au bout de son contrat, coach.
Ah ben oui.
Certains le font.
Mais dans tous les cas, oui, mais ce n'est pas ça la bonne solution pour Lyon.
Bien sûr.
Donc là, avec ce qui leur est arrivé, je pense que... transférer Ndombele s'il ne veut pas prolonger, ça serait quand même une bonne solution pour tout le monde.
Tu sais, toi, Edouard, si dans les cartons, il y a une prolongation possible ou des discussions?
Pour l'instant, on nous dit que non.
Non, d'accord.
Pour l'instant, on nous dit que non. Bon. Et puis, s'il faut aller chercher quelqu'un à la place, ça coûte vite cher. Et un attaquant qui marque plus de 15 buts en professionnel dans les grands championnats, ça coûte vite avec beaucoup de zéros avant la virgule.
Le flop, messieurs.
C'est un guignol.
Qui était votre guignol lyonnais ce dimanche face à Metz, coach?
Ouais, c'est pas un guignol, parce qu'un guignol, ça fait rire. Donc, et moi, celui que je vais citer, sincèrement, il ne me fait pas rire du tout depuis son arrivée. Autant dans son comportement, quand je l'ai vu parler une fois à Dubois, on aurait dit qu'il parlait à son ennemi. Donc, c'est Boateng, évidemment, que je veux parler. Voir ce joueur-là à un poste d'arrière central qui est quand même le poste le plus reposant d'une équipe de football et être obligé de le sortir à la 75e minute sans qu'il soit blessé, hein, donc tout simplement parce qu'il n'a plus d'essence, ben, c'est pas évident de trouver ça, c'est même très très rare. Donc ce joueur-là, je le regarde Et je me dis qu'il y a quand même une anomalie quelque part, je ne sais pas d'où ça vient, de qui ça vient, cette idée-là. Des conneries, on en fait tous, mais celle-là, elle est énorme.
Qui est responsable de la venue de Boateng, Edouard ?
Ben, en tout cas, quand on nous l'a présenté, c'était le 31 août, hein, il est arrivé le dernier jour, on nous a bien dit que c'est le coach Peter Bosz qui avait pris son téléphone pour...
vous savez, on était trois semaines après, il était au tribunal de je ne sais pas quoi, là, oui.
Ouais, pour violence conjugale.
Une semaine.
D'ailleurs, il a été condamné. Hein.
Non, puis c'est bien comme arriver, toi, dans un club.
il fallait meubler en fait l'absence de Marcelo, qui avait été quelques jours avant, après le fameux match à Angers, ben le remplacer. Et pour confirmer, alors bien évidemment, je voulais mettre Boateng. 9 matchs en entier, hein, comme je le disais la semaine dernière, parce que c'était déjà notre flop la semaine dernière. Et 12e fois qu'il sort d'un match, en fait, qu'il est remplacé.
Quand même, c'est énorme comme ça.
C'est énorme. Hein, moins d'une quarantaine de matchs dans l'année.
À ce poste-là, sans être blessé, c'est pas énorme. C'est un record.
C'est un record.
Ouais, c'est un record qui n'a jamais existé.
Alors moi, en flop, je voulais mettre en fait les 4 sorties de la mi-temps. Donc il y a Boateng, il y a Malo Gusto. Alors je ne les mets pas tous sur le même niveau. Alors Boateng, on l'a déjà habillé pour l'hiver. Malo Gusto, voilà, c'est le péché de jeunesse en fait. Voilà, il fait un très très bon match à Marseille. La semaine d'après, c'est moins bien. Donc c'est quand même un signe que la jeunesse, c'est bien. Mais il faut laisser du temps pour qu'elle s'aguerrisse. Donc voilà, tous ceux qui veulent que dès qu'on est formé à l'OL, il faut être titulaire, ben là c'est un rappel. Oussem Aouar, parce que voilà, il est agaçant quelque part. Moi je mets ça dans les attachants. Vous savez, des personnes qui sont attachantes, mais qui sont un peu chiantes, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais parce qu'il peut tellement faire mieux et ne pas se bouger comme il ne s'est pas bougé hier, c'est affolant. Et puis après, bon, il y a Lucas Paqueta aussi, parce que il est où ? Si vous le trouvez, vous me dites où il est. Et ça fait plusieurs fois aussi que je le mets dans les flops en 2022. Quoi, en fait.
Mais justement, tu nous as proposé un extrait d'une interview que tu as réalisée. C'était vendredi en conférence de presse. Lucas Paqueta, donc 2 jours avant ce match, qui jugeait sa saison à Lyon. Écoutez.
Les adversaires ont étudié mes caractéristiques et mon jeu pour me stopper. Ils me connaissent mieux. Si on regarde mes statistiques, je ne pense pas être plus mauvais qu'en première partie de saison. C'est vrai, je marque moins de buts et j'adresse moins de passes décisives, mais il faut regarder aussi comment je joue sans le ballon. Je fais tout pour aider mon équipe.
Coach, tu comprends cette... auto-analyse de Paqueta, c'est de la faute des adversaires qu'ils connaissent mieux désormais.
C'est tellement une évidence que je ne sais pas, c'est comme il nous disait que 1-1 ça fait 2, tu vois. Donc le mec, il te dit que c'est vrai que avec les habitudes d'aujourd'hui et les possibilités d'aujourd'hui, les vidéos, les machines, etc., ben, tout est analysé. Donc les qualités, les défauts, le profil des joueurs, bien évidemment, c'est analysé. Tout est analysé, les pénaltys tirés.
Mais ça suffit expliquer ça, ses performances, ses stats, ses 8 buts, 6 passes décisives cette saison.
À quoi ça sert ? Donc, je ne sais pas ce qu'il a voulu justifier. Ce qu'on lui demande, c'est d'être régulier. Il y a 2 zones qui lui vont très bien pour moi. La zone côté droit pour rentrer avec son pied gauche et dans un rôle de 9,5 qui n'est surtout pas le rôle d'Aouar, parce que Aouar, je ne vais pas me faire son avocat. Il faut parler aussi en même temps de son irrégularité, il faut parler aussi de son utilisation. Donc à Aouar, quand je le vois dans un poste de 9,5, je me dis, mais là, il y a une anomalie quelque part. Et cette anomalie, c'est peut-être moi qui suis à côté de la planque, puisque Peter est avec ses joueurs tous les jours. Mais je donne mon point de vue quand même.
Edouard, cette réaction, cette auto-analyse de sa saison de Paqueta, comment tu la lis ? Est-ce que tu es d'accord avec lui déjà ?
Je trouve que ça veut dire qu'il n'a pas trouvé la solution pour passer outre tout ça. Et j'ai aucune info, c'est plus une impression. Et une impression, ça ne fait pas une info, on est d'accord. Mais depuis le départ de Bruno Guimaraes, alors qu'on lui a posé la question, hein, est-ce que ça... ça te pose des problèmes, le départ de Juninho, il sait clairement, je veux dire, c'est presque sûr que vu les finances de l'OL, s'il y a une offre pour lui, ben forcément les sirènes d'un autre pays vont siffler et du côté de l'OL on va prendre l'occasion, surtout qu'a priori il n'y aura pas d'Europe. Donc j'ai l'impression qu'il n'est plus là, quoi, en fait. Donc c'est pas forcément la peine de nous sortir ce genre de phrases-là.
Allez messieurs, le débat. Peter Bosz est-il perdu ou est-ce la faute de ses joueurs? On a mentionné effectivement ces quatre changements à la mi-temps. Alors certains diront que ce sont ces quatre joueurs qui n'ont pas donné ce qu'il attendait. D'autres diront, des tracteurs, que c'est lui qui n'a pas choisi les bons joueurs au coup d'envoi. Je rappelle aussi, Edouard, quand même, qu'on est face au pire bilan d'un entraîneur de Lyonnais au XXIe siècle. Hein. Lyon n'a gagné que 15 fois. 15 fois sur 36 matchs cette saison, 11 matchs nuls et 10 défaites, 55 points seulement, et certainement, tu l'as dit, une troisième saison sans Coupe d'Europe. C'est du jamais vu pour l'OL depuis 1997, tu l'as dit, Edouard. Coach, ouais. C'est un sujet délicat. En plus, voilà,
oui, mais ça
t'as une amitié pour Peter Bosz aussi.
Mais ça ne me dérange pas d'en parler, dans le sens que, bon, les stats, tu sais aussi bien que moi que c'est quelque chose de très intéressant, mais si on veut parler de Peter Bosz sur le côté, appelons ça négatif, il faut quand même lui rajouter le parcours en Europa League. Hein, parce que le parcours en Europa League de Lyon, c'est un parcours parfait, contrairement à celui de l'Olympique de Marseille, par exemple.
Tout à fait.
Qui n'était pas tombé non plus dans un groupe extraordinaire avec Lazio, qui ne sont pas dans les cinq premiers, et Galatasaray, qui sont dixième, et Moscou, qui sont mauvais. Donc, si tu veux, ça, on pourrait quand même le rajouter. Ensuite, ben évidemment, certaines erreurs de recrutement. À l'intersaison, il y a Lyon qui perd quand même Memphis Depay, remplacé par Shaqiri. Là, j'ai posé la question, quel est le ou les responsables pour Boateng? J'aimerais savoir aussi pour Shaqiri. Parce que ça aussi, si tu remplaces Memphis Depay avec ses qualités, ses défauts, mais beaucoup de qualités par Shaqiri, c'est sûr que tu peux mettre n'importe quel entraîneur et son équipe sera affaiblie. Derrière ça, Kakré absent. C'est une très, très grosse perte. Donc, je pense que la saison de Peter Bosz est moyenne. Maintenant, à choisir, moi, je préfère ne pas être qualifié pour la Coupe Conférence et avoir la saison prochaine, chaque fois, la tranquillité le mardi, le mercredi, le jeudi, pour faire, grâce à cette saison, et on voit ce qui n'a pas été fait, ben, une énorme saison la saison prochaine.
Edouard.
Oui, ben, le problème, c'est que... comment vous dire, moi, il y a ce qu'on me, j'ai eu une formule ce matin quand je faisais un petit peu le tour des popotes, quelqu'un qui me disait c'est un petit peu comme par rapport au Covid, on a l'impression qu'il est dans un laboratoire, il cherche le vaccin contre le Covid alors qu'on est à la 36e journée, donc c'est rapport à ces quatre changements à la mi-temps. Alors que d'autres, justement, ont trouvé le vaccin contre la Covid. Donc, ça veut dire que...
c'est un laboratoire français, quoi, tu veux dire, c'est ça, quoi.
Voilà, c'est plus un laboratoire français qu'un autre, même s'il est néerlandais à la base. Donc, ça veut dire que... Est-ce qu'il perd un petit peu en crédibilité auprès de tout le monde? C'est une question qui peut se poser aussi, mais c'est vrai que les matchs se jouent tellement sur des faits de match, parce que hier, quelque part, il y a un moment donné, ben, il y a beaucoup d'actions pour les Lyonnais. L'attaque va bien, mais c'est le problème de la défense. On a beaucoup parlé de Boateng. Et puis à Marseille, on s'est peut-être emballé sur un match où finalement, si Milik marque le premier but en première période, c'est pas la même chose.
D'accord,
donc,
mais alors si on va avec Dessy, Doudou, à ce moment-là, si tu as une charnière de Neuer et Lukeba.
Et Lukeba, ah bah oui, certainement.
Et si tu as Kakré au milieu, tu as quand même une équipe énorme. Si tu as les deux latéraux à droite qui se partagent le boulot, les deux latéraux à gauche, pareil, tu as six milieux de très très haut niveau. Un numéro 9 qui est quand même pas mal, on en a parlé, Toko Ekambi sur le côté gauche et surtout pas sur le côté droit, donc qui est intéressant. Tu as des gauchers à droite comme Lefebvre, Tété, Paqueta qui peut jouer de 9,5. Et cette équipe-là, je suis désolé, avec en plus une semaine à chaque fois pour préparer son match, si tu as cet effectif la saison prochaine, on pourra pronostiquer Lyon dans les trois premiers.
C'est l'avis
oui,
de coach.
Ouais.
C'est mon avis. Après,
mais c'est un avis qui est partagé par beaucoup.
Je ne sais,
hein.
sais pas si c'est le bon, mais c'est le mien.
Il est partagé par beaucoup.
Mais c'est vrai que c'est une tendance la semaine dernière, claire, nette. Si vous m'aviez posé la question, je vous aurais dit il est là l'année prochaine sans problème. C'est moins le cas aujourd'hui parce que fatalement, ce match, comme un petit peu tout le monde a peut-être un petit peu la mémoire de Poisson Rouge, on va se dire bah voilà, il faut tout remettre en cause. Le bilan sera vraiment fait début juin, une fois que le championnat sera terminé, en sachant que, je ne dis pas qu'il y a des problèmes de vestiaire, mais on voit bien que ce groupe, il faut le régénérer,
oui.
Et que la tendance, pour l'instant, c'est plutôt à régénérer le groupe qu'à changer le chef d'orchestre. Voilà,
pourquoi pas, Edouard, avec les jeunes à Lyon.
Oui,
Les jeunes Lyonnais U19, vainqueurs de la Coupe Gambardella au Stade de France, en levée de rideau de la finale de Coupe de France. Un partout à l'issue du temps réglementaire face aux jeunes du Stade Malherbe de Caen. Victoire au tir au but 5-3 pour les jeunes Lyonnais. Edouard, parmi ces jeunes-là, quels sont ceux qui pourraient apporter à court terme, à moyen terme, à l'effectif professionnel de l'Olympique Lyonnais?
Alors, il faut déjà tout de suite dire, c'est pas cette équipe.
Une question,
qui...
Doudou.
Je vais en poser une, coach.
Non, mais ça fera deux. Donc, Cherki, s'il avait pas été blessé, il pouvait jouer la Gambardella?
Non, parce que là, c'est la Gambardella pour les années 2004 et 2005, et Ryan Cherki est de 2003.
Ah, d'accord.
Donc lui, il a déjà passé l'âge.
D'accord.
Donc en fait, il faut bien, c'est pas cette équipe qui l'année prochaine va remplacer les pros actuels et tout va aller bien, hein, parce que j'entends beaucoup au niveau des supporters très très fans de tout ce qui est Mad in Academy, Mad in Lyon entre Rhône et Saône. On aime bien tout de suite promouvoir ces jeunes. Non, c'est des jeunes qui ont 18. Voire 17 ans hein, pour certains, donc il faut les laisser à maturation, donc on peut les voir dans 4-5 ans. Et je vous demande de retenir Mathieu Patouillet, là c'est un gardien de but de très haut niveau, un peu Hugo Lloris, le calme, un charisme incroyable. Petite anecdote, lors de la demi-finale face à Troyes où j'étais, il y a Lionel Rouxel, l'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe de France, qui vient le voir en disant « Est-ce que tu me connais ?»« Non », répond l'autre qui est un petit peu timide. Bah, « Tu vas apprendre à me connaître parce que j'ai bien aimé ta prestation, je vais te sélectionner ». Voilà, donc Mathieu Patouillet, le gardien de but qui est issu de la région, donc lui, il faut retenir son nom. Hugo Vogel, on l'a déjà vu en pro, pourquoi pas aussi. Bien évidemment, on en a déjà parlé beaucoup de fois, Mohamed Elarouche, le buteur, celui aussi de la Panenka. Alors là, je ne vais pas m'apesantir parce que je vous en ai déjà parlé depuis longtemps. Oui. Et ça, c'est plus à maturation 2023-2024. Hein. Ensuite, vous avez Yanis Laga devant en attaquant. Vous avez aussi Mamadou Sarr, qui est le fils de Pape Sarr, qui était un joueur à Saint-Étienne, à Lens, international sénégalais, qui a fait la Coupe du Monde 2002. Et puis, vous avez aussi Chaïm El-Djebali, alors qu'il était blessé, il n'était pas dans l'équipe de ce samedi. Mais voilà un petit peu tous les noms qu'il faut avoir en tête pour cette génération qui a, et je vous propose d'écouter Eric Elie, parce qu'en miroir peut-être de l'équipe première, il y a ces noms. Mais il y a aussi un état d'esprit, et je vous demande d'écouter avec attention ce que dit Eric Elie. Eric Elie, c'est le coach des U19, et lui, ben, il a la particularité d'avoir gagné en tant que joueur avec Sochaux, et puis finalement, il fait 3-3 en tant qu'entraîneur, qu'il avait déjà gagné deux fois avec Sochaux, face à Lyon en 2015 aussi, et donc samedi dernier, écoutez bien ce qu'il dit, et vous pensez à l'équipe professionnelle, vous verrez que peut-être les pros l'année prochaine peuvent s'inspirer de l'état d'esprit des U19 lyonnais.
Ils ont des qualités, mais ils ont le goût de l'effort. Et quelquefois, on va dire entre guillemets, les joueurs qui sont doués, eh ben, le don, c'est un peu leur ennemi, c'est-à-dire qu'ils pensent que ça va suffire. Je l'ai dit aussi pendant le Covid, ils ont rencontré aussi toujours des joueurs qui étaient plus âgés. Même au début de saison, on a été à Bruges, on a rencontré l'équipe Youstique, donc on a pris une petite correction, mais comme ça a mis les idées au clair tout de suite et ça a poussé tout le monde à travailler plus et à se rendre compte qu'on peut être, avoir des qualités techniques, tactiques, sans intensité physique, sans impact physique, tu peux pas exister au niveau.
J'aime bien ce que dit Eric Elie. Le don peut être un ennemi pour les joueurs qui en ont.
Oui, mais complètement raison.
Edouard, merci.
Et là, cette génération n'a pas tous ces défauts-là. Voilà.
Edouard, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau nouvel After.
Et il faut bien
Lyon.
Avoir en tête, et on en parlera d'ici peu, il faut bien avoir en tête avant d'éventuellement parler de joueurs, de mercato, d'entraîneurs l'année prochaine, il faudra avoir un œil, et j'aurai un œil, et vous suivrez sur nos différents sites, sur le tour de table capitalistique de l'OL.
Avec le départ de deux actionnaires importants, Pathé et DG Capital, hein, qui représentent 40% quand même du capital.
Tout ça avant fin mai.
Merci Edouard, merci coach.
Salut.
C'était l'After Lyon, à la semaine prochaine.
RMC.
After Lyon.
Le podcast
Nicolas Jamain.